Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe Hubert dans le rôle de Roumla, Alexandre dans le rôle du colonel Ternet, Torek dans le rôle du sergent Lamar, Atumi dans le rôle de Carlo Debar et Christian Martin à la narration. Chapitre 3, première partie. Mazas se tenait dans le poste de pilotage du Pierre le Grand, en compagnie du colonel Ternet, commandant du vaisseau-prison, et des officiers de quart. Confortablement installée dans un fauteuil contour, elle était en train d'évoquer les péripéties de sa précédente mission pour l'OMU, où elle avait fait la connaissance d'un être étrange, Ax, un Antillan, qui s'était révélé un formidable combattant. L'octopode les avait sauvés, elle et ses compagnons, des griffes des Antilles qui les avaient capturés. Une sympathie réciproque en avait résulté, cimentée par les épreuves qui avaient suivi.
Vous auriez vu la dextérité qu'il montrait dans l'utilisation des étoiles de jet ? C'était impressionnant. Je crois d'ailleurs qu'il est expert dans le maniement de toutes les armes.
Il aurait pu faire une bonne recrue pour l'OMU,
plaisanta le Pacha.
Non, car il est trop sanguinaire. La vie d'un adversaire compte peu pour lui, ce qui est incompatible avec le code de déontologie des agents du Lord Amiral. En revanche, en cas de coup dur, c'est une véritable assurance-vie de l'avoir près de soi.
Vous auriez pu lui proposer de rejoindre les mercenaires Cardassiers.
J'y ai bien songé une fois ou deux, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun non-humain dans leur rang, et j'ai eu peur que leur mode de vie ne convienne pas du tout à Arx et qu'ils n'arrivent pas à s'y adapter. Sincèrement, je crois qu'il est plus à l'aise dans sa guérilla sur Coriolan 2. D'ailleurs...
Elle fut interrompue dans son récit lorsque Roumla pénétra à l'intérieur de la vaste salle panoramique. Le déliant paraissait agité, et sa paupière droite tressautait sporadiquement sans qu'il puisse la contrôler.
Ça va, Roumla ?
Oui, Mazas.
Vous semblez fatigué. Vous auriez sans doute intérêt à essayer de dormir. Car je pense que vous êtes en train de perturber votre horloge biologique.
Non, ça va. Rassurez-vous, j'irai m'allonger tout à l'heure. Mais je cherchais Melbar Kazom. Savez-vous où je pourrais le trouver ?
Il doit être dans sa cabine ou dans celle de Rick, car je sais qu'ils avaient l'intention de faire une partie d'échecs en 3D.
Merci beaucoup. Je vais passer y voir.
Et il quitta les lieux après un salut à la ronde.
Il aurait mieux fait de rester sur sa planète à hiberner comme tous ses compatriotes.
Maugréa le colonel.
Sans aucun doute. Il semblait tellement désireux de venir avec nous que je me suis laissé fléchir. Cependant, je crois bien que j'ai eu tort, car il ne me paraît pas être en grande forme.
J'ai appris par un des gardes qu'il descendait voir les prisonniers tous les jours.
Intervint le sergent Lamar, qui s'occupait des transmissions.
Ah bon ? Il veut probablement s'assurer qu'ils sont toujours bien enfermés, car il a dû ressentir une sacrée frousse lorsqu'il s'est retrouvé entre leurs mains.
Rétorqua Mazas avec insouciance. Les écrans de proximité ne laissaient apercevoir que la vague lueur laiteuse générée par l'entre-espace. Souvent, pendant ses voyages, lorsque la jeune femme y jetait un regard, elle ne pouvait s'empêcher de se demander de quoi était constituée la zone de non-être dans laquelle il se mouvait. Car l'espace non-einsteinien était très loin d'avoir révélé tous ses secrets. et il gardait toujours bien les mystères vis-à-vis de l'homme. Le vol en direction de Carcel 3, la planète Bang, où ils avaient à déposer leur cargaison humaine, se poursuivait tranquillement depuis 5 jours et devait s'achever dans 96 heures après 3 ultimes étapes linéaires. Le transbordement des prisonniers prendrait une bonne journée. Après quoi, le vaisseau rejoindrait sa base, tandis que Melbar Kazum, Mazas, Rumla et Rick rallieraient des liens à bord de l'une des 2 gazelles disponibles. Le lieutenant Carlo Dobar, un oxternien au crâne lisse et brillant, aux énormes sourcils teintés en bleu et tressés en forme de crête aux pointes aiguës, se présenta au poste de commandement pour y effectuer son rapport bicotidien. Le responsable des gardiens redressa sa silhouette massive avant de saluer.
Monsieur, je viens de faire le tour des différentes cellules. Tous les prisonniers sont calmes. Même leur chef, l'espalien du nom de Lougarne, a cessé d'insulter les sentinelles. Ce qui est nouveau. Je suppose qu'ils ont dû se faire une raison.
Ouais.
Le visage de Mazas se rembrunit un bref instant et ses sourcils se froncèrent, mais elle ne chercha pas à analyser plus loin ce qui avait pu alerter son subconscient dans les paroles du lieutenant. D'ailleurs, le colonel Ternet se contentait de prendre acte du bref compte-rendu avant de permettre à Dobar de se retirer.
Merci, lieutenant. Vous êtes disposé.
L'oxtornien porta la main à sa tempe, fit demi-tour et sortit. Toujours désireuse d'améliorer ses connaissances, Mazas interrogea le commandant du Pierre le Grand sur les planètes Bang dont elle était au courant de l'existence de par son appartenance à l'OMU, mais sur lesquelles son savoir s'arrêtait à peu près là.
Il y en a 7, dispersées un peu partout aux confins de la galaxie. Il s'agit de mondes vierges où une faune et une flore ont été introduites, de manière à les rendre propres à la survie. Lorsque la commission de surveillance estime que les conditions d'habitabilité sont remplies, des dépôts de matériel divers sont constitués un peu partout, à proximité d'une zone dégagée où se situera le terminal de la planète. La coupole d'un champ de force recouvre le petit astroport et les quelques bâtiments administratifs. Elle n'est perméable que dans un sens pour en sortir. Les prisonniers sont enregistrés à leur descente du vaisseau. Ils reçoivent un paquetage contenant des produits de première nécessité et une boîte de médicaments universels. On leur fait franchir le rideau énergétique pour leur premier pas sur un monde qu'ils ne quitteront plus jamais.
L'exil définitif,
conclut la jeune femme.
C'est exact. Cette solution est quand même plus humaine qu'une incarcération à vie dans une quelconque geôle.
Les officiers terminaient leur quart et attendaient la relève en devisant tranquillement. La porte de la salle de commandement s'ouvrit avec un chointement. Rumla s'encadra dans le chambranle. Il avança de 3 pas, presque mécanique. Mazas redressa la tête, l'air interrogatif. Quand elle prit conscience que le déliant avait une main derrière le dos, il était trop tard. Le canon d'un radiant choc apparut subitement et un flux paralysant balaya tous ceux qui se trouvaient là. La jeune femme tenta désespérément d'y échapper, mais en vain. Elle sombra d'un seul coup dans le mur.